Il est déjà 19h24.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Si vous avez des enfants qui font des études, vous savez que ça coûte cher. Il faut parfois payer une chambre, il faut payer des livres, il faut vivre convenablement pour pouvoir étudier dans le meilleur confort, ce qui est un gage de réussite. Mais comment ça se passe quand on n'a pas tout ça? Quand les parents ne sont pas derrière, quand on n'a que la bourse pour survivre, quand on en a une d'ailleurs, et même en échelon 7, c'est-à-dire le plus haut des échelons, c'est un peu plus de 550 euros. Quand on travaille à côté, pas seulement pour améliorer l'ordinaire d'ailleurs, ou se payer des sorties, mais pour vivre réellement, pour manger, pour dormir, pour étudier, tout cela évidemment est très loin d'être simple. C'est sur cette réalité crue que le jeune Anas qui s'est immolé à Lyon a jeté une lumière tout aussi crue. Les études, pour certains, c'est aussi d'ailleurs parfois prolonger la vie à la fac pour avoir ce minimum qui est très loin d'être suffisant pour vivre, parce que qu'est-ce qui se passera derrière? Les débats sur un RSA jeune, un revenu pour les moins de 25 ans sont relancés. Repenser les aides sociales, repenser la vie d'étudiant, quand on n'a pas que ses études en tête, eh bien rater des heures de cours pour travailler, c'est mettre en péril son avenir. Et c'est un peu aussi, au fond, un cercle vicieux. On parle de tout ça ensemble ce soir. Et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Michael, c'est vous le premier. Bonsoir Michael, bienvenue à vous.
Bonsoir Fabienne, merci. Je suis le papa de deux étudiants. Donc une fille qui est en licence et un enfant qui est un deuxième qui vient de rentrer en bachelor cette année. Et je m'aperçois que sur les bourses, il y a une inéquité entre les deux qui est flagrante. La première fait un diplôme d'État, donc elle a droit aux bourses. Le deuxième aurait dû avoir plus de bourses que son aîné, parce qu'il est en le deuxième, mais comme il fait un diplôme européen, il n'a pas droit aux bourses. Et donc, eh bien, il se retrouve dans une certaine précarité, difficulté les deux, puisque on essaye de les aider autant qu'on peut, mais dans la mesure de nos moyens. Et voilà ce que je voulais vous dire.
Eh ben, merci beaucoup pour cette entrée en matière, Michael, qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Il y en a beaucoup forcément des questions sur les bourses. On y viendra pour discuter ensemble ce soir jusqu'à 20h. Orlane François est là, bonsoir.
Vous bonsoir.
Êtes présidente de la FAGE, le syndicat étudiant. Bonsoir Philippe Vendrix. Vous êtes président de l'université de Tours en charge de la vie étudiante à la conférence des présidents d'université. Je vais commencer avec vous, Orlane François. La différenciation, elle se fait comment en fait? C'est quoi cette différence que nous explique Michael, entre un enfant en licence, l'autre enfant avec un diplôme européen, et du coup on n'est plus égaux devant la possibilité d'avoir une bourse?
Alors je connais pas exactement la situation du fils de monsieur, mais sans doute que si c'est un bachelor, c'est dans un établissement qui est un établissement privé et qui du coup n'est pas conventionné avec l'État pour être accepté des étudiants boursiers du CROUS, d'où la différence de traitement entre ces deux enfants.
Voilà, bah comme ça au moins l'explication est claire et Michael le saura. Philippe Vendrix, moi je suis assez curieuse de savoir si vous en voyez beaucoup, comme ceux que nous décrit Michael au fond, ou comme d'autres. J'ai presque envie de dire, est-ce que c'est facile de se dire, quand on est président de l'université, voilà un étudiant qui semble-t-il a du mal en dehors des cours, ça va pas l'aider pour les cours. Est-ce que c'est facile ça ou pas?
Absolument pas facile. L'université globalement en France accueille 1 600 000 étudiants. Et chaque étudiant a une destinée singulière, une vie particulière. C'est construit un parcours d'études spécifique, même si on sait que la grande majorité intègre l'université une fois qu'ils ont obtenu leur baccalauréat au lycée. Mais ça n'interdit pas cette diversité. Et donc, il faut pouvoir donner une réponse qui soit à la hauteur de l'hétérogénéité de nos étudiants. Et les moyens, nous amènent souvent à être plutôt homogènes dans nos réponses, donc à ne pas toujours traiter en détail, très fin, chacun des cas en particulier. Cependant, il y a l'université et il y a le CROUS, le CNUS, qui nous accompagne dans cette démarche et qui, lui, s'occupe individuellement de chaque étudiant.
Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un Anas ou un autre gamin qui vient et qui dit « j'y arrive pas, je sais pas joindre les deux bouts », est-ce qu'il y a un endroit au moins dans chaque fac où il peut aller, et derrière on lui dit « à minima », ou alors vous peut-être, est-ce que vous avez les capacités de décrocher votre téléphone, d'appeler le CROUS vous-même pour que ça aille plus vite pour des étudiants comme ça? Est-ce que ces cas d'urgence-là, ça existe?
Oui, un président peut décrocher son téléphone, il le fait régulièrement, et heureusement qu'il le fait régulièrement. Il est aidé aussi par des associations d'étudiants, c'est un élément essentiel de la vie d'une université. Mais quand un étudiant est en difficulté, il y a différentes problématiques. Il y a la problématique de l'étudiant qui est en difficulté et qui connaît le circuit dans lequel il va pouvoir entrer pour pour bénéficier peut-être d'une aide d'urgence, peut-être d'un soin médical, peut-être d'un accompagnement psychologique. Et puis, il y a l'étudiant qui est en souffrance, qui hésite ou qui n'a peut-être pas identifié le réseau par lequel il pourrait bénéficier d'un coup de main. Et donc, la difficulté pour les universités, mais aussi pour des condisciples dans une classe, c'est de repérer le copain ou la copine.
Avant qu'on retourne au standard, Orlane François, on a beaucoup lu depuis la semaine dernière qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses au fond qui pouvaient être à disposition des étudiants. Et c'est un tel maquis qu'on n'en sait rien, qu'on ne sait pas ce à quoi on a droit. Est-ce que c'est une réalité, ça, selon vous?
Il y a une réalité sur la question du non-recours au droit et surtout de la non-connaissance des droits au niveau des jeunes et des étudiants. Donc ça, c'est une première problématique sur comment on informe mieux, comment on dirige mieux, quels sont les moyens humains qui sont mis à disposition des universités, des CROUS, pour pouvoir accompagner au mieux. Mais après, il y a quand même des questions d'insuffisance d'un système d'aide directe que sont les bourses ou autres pour éviter d'en arriver à ces cas-là. Mais oui, il y a un problème d'identification des ressources à leur portée.
Alors, on va essayer de voir ça avec quelques exemples. Bonsoir Anita.
Bonsoir.
On vous écoute Anita, allez-y.
J'ai un petit-fils qui fait des études depuis cette année en IUT. Et il a une maman, il a un papa, son papa est décédé et sa maman était soignante. Bon, ce qui, traduction, il n'y a pas beaucoup d'aide financière.
Pas beaucoup de sous à la maison, ouais.
Voilà, et les grands-parents ont une petite retraite, donc on ne peut pas faire beaucoup non plus. Et donc, il touche 250 euros de bourse. Il a une APL pour le logement du CROUS, il a un studio CROUS. Mais avec ça, il lui reste en tout et pour tout, et avec l'aide qu'on lui donne, il lui reste 100 euros pour payer... il arrive à payer ses repas de CROUS le midi, mais pas le soir. Et 100 euros, ça lui sert à payer ses déplacements pour faire du sport, parce qu'il n'a pas voulu arrêter son activité sportive. Il est engagé dans une équipe bien classée. Donc,
et puis il a le droit.
Il devrait avoir le droit. Il a un petit peu d'argent de côté parce qu'il a travaillé cet été, bien sûr. Mais il ne peut pas. Il est en IUT et le programme est très lourd, donc il ne peut pas s'engager à travailler en plus de son activité sportive. Donc j'ai posé la question au département de quel il dépend. Pour savoir s'il y avait une aide complémentaire à la bourse que je trouvais limitée. Et on m'a répondu, ah non madame, on n'aide pas les boursiers. Alors j'ai été un peu surprise et j'ai demandé, mais vous c'est bien un service d'aide aux étudiants? On m'a dit oui, mais pas aux boursiers. J'ai dit donc vous aidez les étudiants qui n'ont pas besoin de bourse, c'est-à-dire qui dépassent les montants, les revenus des parents sont supérieurs au plafond. Elle m'a dit mais oui. Et là, je vous avoue que je me suis posé la même question que celle que je me pose quand vous interviewez des ministres. Je me suis dit, mais pourquoi les journalistes ne demandent pas comment vous feriez-vous avec cette somme-là pour vivre?
Et c'est une bonne question. Est-ce que vous avez posé cette question à la ministre Frédérique Vidal, Orlane François, que vous avez vue là tout à l'heure à 17h30?
En tout cas, c'est des éléments qu'on apporte régulièrement.
Parce que moi, pardon de vous interrompre, mais donc je vois qu'il est à l'échelon 2, le petit-fils. Avec un père décédé, une mère aide-soignante, ça me paraît tout petit, l'échelon 2, en fait. Ça me paraît très bas.
Alors, c'est ça que je veux dire. Je connais pas exactement la situation de la famille, mais en effet, mais de toute façon, il y aura... dans tous les cas, une insuffisance d'accompagnement. Et il faut également retravailler sur la question des critères. Et dans le système de bourse, il y a des gros problèmes, notamment des effets de seuil, qui pour des fois, 5 euros en plus annuellement sur le foyer fiscal, font perdre un échelon et quasiment 50 à 100 euros par mois, ce qui est énorme. Donc pour nous, il faut déjà retravailler sur la manière dont c'est attribué. Et puis, c'est une vraie question, ce qui est pointé là, c'est aujourd'hui, des étudiants qui se retrouvent avec 170, 80 euros par mois pour vivre, pour se loger, enfin pour vivre, pour manger, pour les transports, etc. C'est une vraie réalité, c'est quelque chose qu'on croise régulièrement et c'est ça ce qu'on pointe, c'est que c'est pas tenable, c'est plus tenable pour ces jeunes là ils doivent faire des sacrifices, souvent c'est sur les repas, c'est manger une fois par jour et pas trois, c'est couper le chauffage dans son appartement le soir parce que sinon on finit pas le mois avec des sous sur le compte. Donc ça, c'est une vraie réalité, c'est ce qu'on pointe du doigt en disant attention, on est dans une situation très très compliquée aujourd'hui.
Avant de poursuivre cette conversation, puisqu'on est vraiment dans le même thème, je veux qu'on écoute Myriam. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Alors, bon, moi je suis une présidente d'une association de parents d'élèves de la FCPE de la Corrèze. Et bon, j'ai une fille qui est boursière aussi. Et régulièrement, donc pour les demandes d'attribution des bourses, j'ai contacté plusieurs fois, ma fille est donc en prépa, et donc j'ai contacté plusieurs fois le CROUS de Poitiers. Déjà, il faut savoir que c'est très 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 compliqué d'avoir le CROUS au téléphone. J'ai dû téléphoner peut-être 20 fois dans la matinée avant de finir par avoir quelqu'un. Mais en plus de ça, ce qui m'a été précisé et ce que je trouve vraiment déplorable, c'est quand même le système de calcul des bourses, c'est-à-dire que on vous demande en fait le revenu brut global, et ça c'est en clair hein, sur les même le site internet donc du CROUS, c'est-à-dire qu'on vous demande pas le revenu imposable, on vous demande le revenu brut global, c'est-à-dire ce que vous touchez sans tout ce qui sort en fait à la fin du mois. Donc comment peut-on faire un calcul de bourse sur un revenu brut global? Ça paraît inimaginable.
Merci.
C'est inimaginable.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Myriam Orlan-François, là-dessus. Vous avez chiffré, j'imagine, non? Qu'est-ce que vous réclamez je vais reformuler, à combien devrait être une bourse pour une personne comme les enfants de Myriam ou qu'on a entendu précédemment, selon vous, pour qu'on puisse dire oui, un étudiant peut vivre décemment?
Alors, c'est compliqué d'avoir un chiffre exact.
Oui,
je pense
on est d'accord. Jusqu'à présent, pour que les gens qui nous écoutent sachent, on part de 102 euros, on va jusqu'à 581, grosso modo, on va dire,
c'est cette fourchette-là. En fonction de l'échelon. Nous, ce qu'on dit, c'est que là, dans l'urgence, il faut une revalorisation des montants, de manière urgente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un investissement massif en premier lieu, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, pour qu'on ait une revalorisation qui s'applique rapidement. Et là, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros si on veut qu'il y ait un impact. Parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas touché au montant des bourses, et ça faisait des années que le coût de la vie augmentait. Et après ça, moi, j'ai rejoint ce qui vient d'être dit. Il y a un système de bourse aujourd'hui qui est dépassé. La façon dont on calcule les bourses est dépassée, elle est plus viable. Et donc, nous, ça fait des années qu'on demande à ce qu'il y ait une vraie réforme de la manière dont on donne les bourses étudiantes, et pour ça,
Qu'on change les critères.
Voilà, il nous faut une réforme et il nous faut un engagement ferme sur une réforme des critères et de la méthode d'attribution des bourses dans les mois qui arrivent, parce que sinon, on s'en sortira jamais et tous les ans, on reviendra sur le même débat.
Philippe Vendrix là-dessus, y compris sur les critères d'ailleurs, que le président d'université que vous êtes peut pas être indifférent non plus à ça, effectivement.
Ah mais non, nous ne les appliquons pas, puisque c'est le CROUS,
je suis bien d'accord avec ça.
Mais ça n'empêche, nous sommes en dialogue permanent, évidemment, avec le CROUS et avec nos étudiants. Il y a plusieurs pistes, ce que Orlan vient d'indiquer, c'est une piste à explorer, à approfondir. Il y a peut-être aussi celle du revenu universel d'activité à creuser. Pourquoi pas s'orienter vers le système qui existe dans certains pays européens, qui consiste à accorder une bourse pendant 5 ans ou 6 ans, peu importe l'état des parents, l'état financier de la famille. On l'accorde et puis on vit sa période d'études avec une forme de sérénité. Je n'avais pas dit que c'était complètement serein, parce qu'il faut aussi prendre en compte un faisceau d'éléments lorsque l'on regarde ce qu'est le quotidien d'un étudiant. Parallèlement, la bourse est une chose, mais je crois que le CROUS, enfin, j'en suis sûr, le CROUS accompagne aussi les étudiants en matière de logement et les accompagne en matière de repas. Bien sûr, il faut les payer, ces repas, c'est 3,30 €, un repas complet au CROUS, lorsqu'on en fait deux par jour, c'est déjà 6,60 €, ce n'est pas rien. Mais bon, il y a une réelle volonté d'accompagner les étudiants dans ce sens-là. Mais les universités travaillent également. Elles travaillent également, notamment pour tout ce qui est santé. Santé psychologique, santé physique. Le moral, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi des clubs de sport, nous avons des centres de culture dans les universités, pour précisément permettre l'émancipation des étudiants, leur bien-être, ne pas abandonner l'activité sportive qu'on a pu accomplir pendant des années. Et là, c'est un investissement fort qui est fait par l'université, en collaboration avec les associations, en collaboration avec le CROUS, mais et qui est plébiscité par les étudiants évidemment, qui est suivi. Hein.
C'est pour ça que le petit-fils de Myriam, tout à l'heure, voulait continuer à faire son sport, évidemment.
La précarité financière ne s'arrête pas à la précarité financière. Ça évolue souvent et ça entraîne une précarité sociale
bien
très
sûr,
forte.
Une détresse psychologique,
et
c'est bien
on arrive
ce qu'on
à des situations de détresse, en effet, psychologique qu'on rencontre, en tout cas, quotidiennement sur les campus. Et il y a une vraie nécessité à agir aussi sur cette question-là. Pas seulement traiter de la question des montants de bourse, parce que ça doit être une priorité, mais pas seulement. Il y a tout à côté aussi qui est nécessaire, sur lequel on doit avancer, on doit évoluer.
Le fameux revenu universel, ça a été mis sur la table, on a pu le lire dans un papier ou deux depuis une semaine. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus, Orlane François ? Puisqu'on est dans une refonte des aides sociales de toute façon aux étudiants, l'idée est à creuser, selon vous, c'est la bonne idée à creuser ?
Alors, on travaille actuellement, il y a des concertations qui sont menées par le gouvernement sur le revenu universel d'activité, alors qui n'est pas forcément de base qu'on entend par revenu universel, hein, c'est un programme de fusion des minima sociaux, etc.
Oui,
donc, est-ce qu'on intègre les bourses ou pas à l'intérieur. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut retravailler le système, il faut pouvoir permettre une indépendance des étudiants, ça c'est sûr, mais attention à ne pas rentrer dans un système qui deviendrait inéquitable, parce qu'il y a aussi une volonté à conserver une équité entre les jeunes. C'est un public qui est difficile à cerner, parce qu'il est difficile d'identifier les ressources chez un étudiant. Est-ce que les parents accompagnent ou pas ? Et un foyer riche n'accompagne pas forcément son enfant. Donc c'est comment on permet d'identifier les différents cas et comment on aide plus précisément et de manière plus personnalisée l'étudiant pour que chacun ait les moyens nécessaires pour pouvoir vivre et étudier sereinement.
Mais
et là, c'est un travail à effectuer.
Et j'allais vous poser la question, si j'ai 18 ans aujourd'hui, que je suis partie de chez moi, que je ne m'entends absolument pas avec mes parents, que je ne me suis pas retournée en partant, mais que pour autant ils ont un revenu, de toute façon, comment je fais pour qu'on m'aide, comment je fais pour avoir une bourse, par où je passe en fait ?
Et c'est tout.
Le CROUS analyse, hein, si vous expliquez, que vous démontrez que vous êtes en rupture de relation familiale, eh bien, on ne tient pas compte de ce paramètre pour vous accompagner dans votre bourse.
Je pense qu'il faut avancer sur ces questions-là, parce qu'en effet, c'est des sujets qui touchent des étudiants, et aujourd'hui, c'est très compliqué d'être reconnu en tant que rupture familiale et d'avoir vraiment cette case qui est cochée. Donc, il faut travailler sur justement comment on facilite ce passage de d'identification du fait qu'on est en rupture familiale.
Et les familles sont recomposées, sont décomposées aujourd'hui.
Voilà,
les choses sont beaucoup moins linéaires qu'elles pouvaient l'être.
Il faut vraiment travailler sur ces éléments-là si on veut vraiment avoir une aide qui correspond aux besoins de chacun.
Alors, je voudrais justement qu'on écoute le témoignage de Louise. Bonsoir à vous, Louise. Bienvenue.
Bonsoir. Du coup, moi, je suis étudiante et j'ai mes deux parents qui sont décédés. Donc, clairement pas de revenu parental et de parents qui peuvent m'aider. Et donc, je suis échelon 6 et non échelon 7. L'échelon 7, c'est le maximum.
D'accord.
Parce que je travaille en même temps que mes études pour compléter ma bourse. Et je trouve ça un peu ironique de se dire que parce que je travaille, parce que je dois compléter ma bourse. Alors moi, ça va encore parce que je suis en province, donc les loyers sont moins élevés. Mais pour une personne qui est à Paris, vivre avec 550 euros, c'est pas grand-chose, et travailler avec, c'est normal. Et du coup, elle va travailler avec, et l'année d'après, elle aura moins de bourses parce qu'elle a travaillé.
Je trouve bien urbaine, Louise, parce que vous dites ironique. Moi, je trouve que c'est scandaleux même, ce que vous êtes en train de nous expliquer, en quelque sorte, non ?
Je trouve ça... Oui. Après, je tiens à noter quelque chose quand même que peu d'étudiants savent, et j'ai envie de profiter de ça, c'est
allez-y.
Que quand on n'a plus de parents, on a le droit aux bourses l'été. Et quand
d'accord.
on est aussi pupille d'État. Et je trouve que ça, il y a très peu d'étudiants qui le demandent parce qu'ils ne le savent pas.
Parce qu'il faut le demander, c'est ça ? Parce que ce n'est pas automatique.
Il faut le demander.
Voilà. Ouais. Alors, il faut rappeler aux gens effectivement qui nous écoutent que c'est sur 10 mois, effectivement, une bourse théoriquement.
Oui,
là,
tout à fait.
Sur 12.
Donc, il faut 10 mois sur 12, et là, il faut le demander. Est-ce que ce n'est pas d'une terrible injustice, Philippe Vendrix, pardon, de se dire, voilà, Louise qui fait des efforts, qui n'a plus de parents, qui a une bourse, évidemment, donc échelon 6, qui fait des efforts pour travailler en plus, on lui dit, bah, puisque tu travailles en plus, tu auras une bourse plus petite.
Oui, théoriquement, ça ne devrait pas se produire ainsi, si je puis me permettre. Ou alors, c'est un petit problème d'identification de son dossier ou de lecture de son dossier.
Ah.
Mais la bourse est la bourse. Et si,
donc, il faut que Louise y retourne pendant qu'elle est encore là.
Absolument.
Normalement, l'emploi étudiant ne vient pas à pacter le montant des bourses.
D'accord.
Mais en revanche, ce que Louise indique déjà, c'est qu'il y a une question essentielle, c'est quel type d'activité professionnelle un étudiant fait en parallèle de ses études. Là aussi, on souhaiterait dans les universités développer l'emploi étudiant au sein de l'université, qui garantit quand même aussi de ne pas se retrouver dans des endroits d'exploitation. Il y en a, il y en a pour les étudiants. Il y en a qui vivent très très mal et très douloureusement leur
activité professionnelle. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme activité, comme boulot dans la fac que vous pourriez donner aux étudiants qui...
Ah ben, tout ça est très réglementé, tout ça est très organisé, bien sûr, hein, parce qu'on ne peut pas leur confier, on ne peut pas confier aux étudiants n'importe quoi.
Non, mais...
Il y a le respect, mais par exemple, la tenue des bibliothèques ouvertes le soir, l'accompagnement pour prise de notes des étudiants en situation de handicap. Voilà toutes des boulots étudiants qui existent au sein de l'université et qu'on cherche à développer.
Et qui sont très très pourvus, c'est-à-dire très demandés, parce qu'effectivement, les étudiants qui ont besoin de travailler se rendent compte que dans l'enceinte de la fac, évidemment, c'est quatre fois plus facile. Oui. Donc très demandé, très pourvu. Ou
plus facile, je ne sais pas. En tous les cas, c'est plus direct pour eux et c'est dans un cadre qui est plus rassurant. Hein. Il n'y a pas d'exploitation. Mais tous les postes sont remplis. Ce qu'il y a, c'est qu'on manque d'offres. Nous n'avons pas la capacité d'offrir suffisamment d'emplois.
C'est le sens de ma question. Vous avez une université comme la vôtre, par exemple, à Tours, même au doigt mouillé, vous diriez combien d'offres pour combien de demandes ?
Sur 30 000 étudiants, nous n'avons pas plus de 200 emplois étudiants.
La question de l'emploi étudiant, c'est un vrai sujet. On entend régulièrement des gens qui nous disent « Non mais moi aussi, quand j'étais étudiant, je travaillais pendant mes études. » Bon, ça c'est quelque chose nous qu'on...
Il y a travailler pour se payer les loisirs et travailler parce que sinon on mange pas.
Et puis surtout, il y a une chose à remarquer, c'est que l'emploi étudiant aujourd'hui, il a énormément évolué et il est aussi de plus en plus précaire. Quand on regarde les questions d'ubérisation de l'emploi aujourd'hui, c'est même plus des emplois qui nous protègent en termes d'accompagnement.
Vous emmener sur ce terrain-là. Quand on est étudiant et qu'on travaille dans des sociétés qu'on ne citera pas, mais sur lesquelles il faut faire du vélo, par exemple, on est encore moins protégé finalement qu'avec un statut d'étudiant.
Sur ces types d'emplois, il y a une protection sociale qui est au rabais en fait, parce qu'il y a un problème de statut tout simplement de ces travailleurs. Et du coup, on a des étudiants qui travaillent, qui ont des fois malheureusement un accident physique et qui sont pas couverts en fait. Et du coup, qui arrêtent de toucher de l'argent, qui sont arrêtés pendant 3 semaines et qui du coup ne gagnent plus un sou et qui ne sont pas accompagnés là-dessus. Donc c'est un vrai problème. On a en plus de ça un emploi qui se veut, qui fait prendre plus d'heures parce qu'il y a toujours la course à travailler plus pour gagner plus parce que l'étudiant, il y en a besoin de gagner de l'argent. Et en plus de ça, qui est encore moins protégé que d'autres emplois qu'on pouvait trouver auparavant. Donc il y a une vraie précarisation de l'emploi également. Et ça, c'est encore un autre sujet.
Est-ce qu'on pourrait chiffrer, se dire que la plupart des étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études font tel type de job? Est-ce qu'il y a une étude qui existe? On sait ça ou pas?
L'Observatoire de la vie étudiante mène des enquêtes relativement détaillées sur chacun de ces sujets, le logement, les occupations des étudiants, les sports, les passions, les centres d'intérêt. Et en fait, les étudiants font de tout. Imaginez, c'est potentiellement 1 600 000 étudiants capables de réfléchir face à leur travail. Ils sont demandés, ils sont exploités aussi.
C'est un étudiant sur deux qui a une activité rémunérée aujourd'hui. Quasiment un étudiant sur deux, c'est assez énorme. Donc en effet, on a un travail qui est très varié. Sur les travailleurs des plateformes, c'était environ 60% qui étaient étudiants. Donc c'est assez énorme.
Alain, vous avez été très patient. Pardon de vous avoir fait patienter aussi longtemps. On vous écoute, allez-y.
Ben, je suis en plein dans le sujet là, parce que moi je connais un étudiant qui travaille, c'est mon petit-fils. Eh ben, il est en alternance, il fait un diplôme d'ingénieur. L'entreprise d'alternance est à Rennes et l'école d'ingénieur est à Lille. Donc double logement, les trajets et tout ça, ce n'est pris en compte nulle part. Donc il a un logement fixe à Rennes qui lui coûte la moitié de ce qu'il touche dans son entreprise d'alternance. Et puis, quand il va à Lille, il squatte chez les copains, en Airbnb, et les trajets, il les fait... Alors, vous savez, les liaisons Rennes-Lille, c'est pas gagnant-gagnant.
Non, c'est
hein,
sûr.
Hein. Et donc, les trajets, il les fait en Airbnb, très souvent, enfin, pas en blablacar, et des choses comme ça. Et j'aimerais qu'on en insiste... Alors, je me suis renseigné, finalement, je suis le grand-père, moi, mais je me suis renseigné, et il y a beaucoup d'étudiants qui vivent ce genre de situation, avec l'école qui est à 500 km de l'entreprise d'alternance. Et alors, évidemment, ils touchent une APL... Son studio à Rennes, qui lui prend la moitié de ce qu'il touche dans l'entreprise où il est en alternance, qui s'appelle TDF d'ailleurs, entre parenthèses, ça doit vous dire quelque chose.
Voilà, boum.
Et quand il va à Lille, il fait le beatnik, il squatte, voilà quoi. Et donc, il faudrait que ce soit pris en compte, ça. Ça n'apparaît nulle part, cette double résidence et le trajet entre l'alternance et le lieu d'études.
Merci
beaucoup. Je vous remercie.
Je vous en prie, Alain, merci beaucoup pour ce témoignage. Alternance, stage obligatoire, même chose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut lâcher la chambre? Est-ce qu'il faut la sous-louer? Ce qui, techniquement, est interdit. Tout ça pose des problèmes qu'on n'imagine pas et que souligne très bien Alain Philippe Vendrix.
Oui, alors la question du logement est une question au cœur des échanges actuellement entre le CROUS, la CPU, la conférence des présidents d'université et les bailleurs sociaux d'ailleurs, parce que le parc immobilier à disposition des étudiants relevant du CROUS, il est limité, il ne permet pas de couvrir les 1 600 000 étudiants dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi les modalités. On pense encore par année, on pense encore par globalité, alors que les modalités pédagogiques ont changé, les relations entre le lieu d'études, comme on vient de l'expliquer, le lieu de pratique, d'apprentissage, suppose de se déplacer. Il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place par dans des résidences pour l'alternance des foyers de travailleurs, etc. On essaye vraiment d'agir sur ce point, et on sait que les bailleurs sociaux sont eux-mêmes sensibles. Donc, là aussi, c'est un sujet à discuter, Orlan, et il est sur la table.
Non, ça, c'est une vraie priorité donc, qu'on a mis en avant depuis pas mal de temps auprès des ministères concernés. C'est également le ministère du Travail, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'en effet, la question du logement et des transports, c'est quelque chose qui est très handicapant pour les étudiants qui sont en alternance, et budgétairement, c'est un gros trou dans le portefeuille qu'on ne peut pas se permettre en tant qu'étudiant dans la plupart des cas.
On va rester dans le domaine du logement, justement, avec Willy, qui est enseignant. Bonsoir, Willy.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Willy.
Alors, ben, du coup, je suis prof et je suis enseignant avec des élèves qui sont étudiants. Et je leur ai posé la question. 90% de mes élèves pensent que le plus gros budget, c'est le logement. Et donc, toutes vos discussions, elles sont ultra personnalisées sur les bourses, tout ça. Mais là, je voudrais juste élargir un peu le sujet. Mmh. Est-ce qu'on pourrait pas quand même essayer de délocaliser un peu ces écoles, tous ces étudiants qui s'entassent des fois dans des universités et qui font une espèce d'errance scolaire pendant des années à essayer de trouver quelque chose. Essayer de délocaliser ces écoles qui sont dans des centres-villes qui sont vraiment ultra chers et mettre ça plutôt dans des plus petites villes pour essayer de réanimer, donner une seconde chance à des petites villes qui ont besoin aussi d'avoir des jeunes et paieraient beaucoup moins cher leur logement. Voilà.
Et pourquoi pas cette suggestion, Willy? Alors, ce serait un peu compliqué de délocaliser tout le monde, mais cela dit, les étudiants sont très inégaux face à leurs problèmes de logement. Qu'on habite à Tours, ou qu'on habite à Bordeaux, ou qu'on habite à Paris, c'est pas du tout la même mayonnaise, Philippe Vendrix.
Absolument. C'est là que on peut pas globaliser lorsque l'on parle de l'état, de la précarité ou de la difficulté d'accès au logement. Chaque ville, chaque métropole a ses spécificités et ses difficultés, hein, en particulier les très grandes métropoles qui ont aussi une capacité d'attractivité sur nos jeunes étudiantes et étudiants de 18 ans. On a envie à cet âge-là d'aller à Paris, d'aller à Lyon, d'aller à Marseille, d'aller à Bordeaux.
Et peut-être que dans une grande ville, on trouve l'alternance moins loin, donc ça pose moins de problèmes que d'aller de Lille à Rennes.
C'est que les jeux d'équilibre sont à mesurer très précisément.
C'est ça, et puis je réinsiste, en effet, le budget sur la question du logement étudiant, c'est 50%. Mensuellement. C'est le plus gros budget chez un étudiant, la question du logement. Donc en effet, après se pose la question du territoire, où sont les logements étudiants? Ça peut être aussi une question de où est-ce que sont les logements étudiants? Est-ce qu'ils sont en centre-ville? Est-ce qu'ils sont en périphérie? Est-ce qu'on peut travailler sur ces éléments-là? Mais aujourd'hui, il y a une vraie nécessité à avancer sur la question du logement. Ça a été dit tout à l'heure, le logement des CROUS, c'est 175 000 logements sur environ 1 700 000 étudiants décohabitants. Donc c'est à peine 10%. Donc il faut réussir à travailler sur l'accès au logement de manière plus générale, pousser les communes et villes à mettre en place ce qu'on appelle l'encadrement des loyers, qui a été remis en expérimentation depuis quelques mois, parce que c'est sur ça qu'il faut travailler, et en effet après travailler sur la répartition territoriale des universités.
Et à la belle qualité. La belle qualité indispensable pour les logements.
Du
logement, c'est-à-dire le label qualité qui va être donné.
À la fac de Tours, on est bien logé parce que autour c'est bien logé. Vous voyez ce qu'on peut vouloir dire, une espèce de guide du retard de ce qui est bien logé, mal logé.
Il faut approfondir chaque cas, je pense.
Regardez ce que nous envoie Daniel sur franceinter.fr et qui revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les familles décomposées, recomposées, qui font que les situations sont beaucoup moins limpides que dans le calcul de la bourse. Mon ex-compagne et moi avons 3 enfants, dont l'aîné est en deuxième année d'études études supérieures. Pour calculer le montant de la bourse, le CROUS tient compte des revenus des deux parents, mais ne tient pas compte du fait que les parents sont séparés. De ce fait, chaque parent a sa charge à son loyer respectif, plus le loyer de l'étudiant. Bref, il n'y a pas que l'étudiant qui soit pauvre, ce sont les cinq membres de l'ancienne famille qui sont également pauvres. Il y a une non prise en compte, et c'est ce que vous disiez aussi, Orlane François, des situations qui sont toutes compliquées. On a tous des situations de vie évidemment compliquées. Papa, une maman, un enfant, c'est fini cette affaire, en tout cas dans la plupart des cas.
En effet, je crois qu'on sort un petit peu des situations plus traditionnelles qu'on pouvait peut-être connaître il y a quelques années. En effet, on a des situations qui sont très variables et qui demandent une prise en charge, enfin une prise en compte bien plus spécifique. Et c'est sur ça qu'on demande d'avancer, parce que c'est sur ça qu'il y a un vrai problème. Et ce qui est rappelé est très juste, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement un étudiant qui est précaire quand il est aidé par sa famille, on a aussi derrière la famille qui se précarise encore plus. Et ça, c'est un vrai sujet de société, et je crois que ça fait écho aussi à la crise sociale qu'on est en train de vivre et qui nous dépasse largement en tant qu'étudiants.
Florence, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Florence.
Ben moi, je suis maman de jumeaux, je suis enseignante, et mes enfants sont orphelins de père. Ils ont 150 euros de pension d'orphelin qu'ils vont perdre à leurs 21 ans. Ils ont 100 euros de bourse parce qu'ils sont à 50 km de chez moi. Ils n'ont pas eu droit au logement étudiant et j'ai dû donc foncer pour deux appartements parce que ma fille, pour faire baisser le prix, s'est mise avec son petit ami. Je paye évidemment tout le reste, tout ce que je peux payer, mais bon, mon fils ne se chauffe pas.
Vous habitez où, Florence ?
J'habite dans l'Aude.
D'accord.
Et mes enfants sont scolarisés sur Toulouse. Et donc, mon fils fait de la récup de légumes, il fait pour manger, il fait de la récupération comme il peut. Voilà, notamment, ma fille, pareil, elle est à l'affût de tout ce qui peut lui permettre de passer le mois. C'est difficile, je complète quand je peux. Voilà, mais
c'est pas simple.
C'est un peu lourd.
Ni pour elle et ni pour vous. Merci beaucoup pour votre témoignage, Florence Orlane François, encore une fois.
Pour répondre, nous, on a été, il y a quelques années, on a été contraints à venir, entre guillemets, un petit peu remplacer la mission que l'État ne remplissait pas sur l'accompagnement social. Et on a créé ce qu'on appelle des agorae, c'est des épiceries sociales et solidaires qui sont du coup gérées par des étudiants sur des campus et qui permettent à des jeunes de manger pour quasiment rien, puisque ce sont des denrées qui sont à 10% du prix du marché. Et les bénéficiaires ne font qu'augmenter. Et là, on rencontre en effet une précarité sociale qui est grandissante. Et donc voilà, on a été obligé entre guillemets d'avoir une initiative très étudiante vers les étudiants, parce que sinon des étudiants ne pourraient pas manger.
Et comme vous dites, les premières choses qu'on supprime, on ne se chauffe plus et on mange une fois par jour.
On se nourrit très mal. Voilà, on leur fait même des cours de cuisine pour apprendre à se utiliser à bon escient les ingrédients
et
qu'on leur livre.
Simon, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Simon. Allez-y. On vous écoute, Simon.
Moi, c'était pour apporter mon témoignage aussi. Du coup, je disais que moi, je suis pareil, j'étais étudiant, j'avais fait un master. Celui-là était à Lille. Et donc, j'avais décidé de poursuivre mes études. Du coup, je suis venu à Paris. Et du coup, on m'a vu me refuser ma bourse parce que du coup, j'avais dépassé mon quota au niveau master. Et donc, du coup, le problème que je posais, c'était... Est-ce qu'on n'est pas pénalisé justement pour continuer nos études supérieures ?
Eh ben, on va poser la question telle que Orlane François d'abord et Philippe Vendrix après. Est-ce qu'on est parfois, et puis surtout, est-ce qu'on a le droit de revenir en arrière au fond, de changer d'avis, de repartir ?
Je pense qu'en France, on est encore très en retard sur ces questions. Quand dans certains pays voisins en Europe, la moyenne d'âge des étudiants est à peu près de 26 ou 27 ans, en France, elle est de 23 ans, parce qu'en France, pour réussir, il faut faire un parcours linéaire, ne surtout pas redoubler, ne surtout pas revenir en arrière, ne surtout pas changer. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Ce qui est pointé là, c'est comment on accompagne l'étudiant dans sa volonté d'études et dans peut-être des réorientations ou des doubles masters, etc. Là, c'est vrai qu'on a une limitation en termes d'aide qui est peut-être bonne à retravailler, parce qu'il faut qu'on sorte de ce modèle d'avoir fait 5 ans et de rentrer sur le marché du travail, parce que c'est plus ça dont on a besoin aujourd'hui en tant que jeune et étudiant.
Philippe Vendrix ?
Totalement d'accord, et c'est là qu'il s'agit de travailler tous ensemble dans une direction partagée. J'entends les associations, j'entends le CROUS, j'entends l'université, notamment associer la question de l'orientation à la question difficile du logement, de l'alimentation, du devenir, des choix, changer de Lille à Paris, c'est un choix sans doute raisonné, mais qui est très difficile. difficile.
Est-ce que Parcoursup a changé un certain nombre de choses, alors au positif ou au négatif, j'en sais rien. C'est-à-dire que quand on est fléché comme Parcoursup est censé flécher, au fond, ça veut dire qu'on est mieux à sa place, il y a moins de démotivation. La démotivation, c'est ce qui fait qu'on redouble aussi et qu'on se retrouve dans des situations difficiles. Ou est-ce que, au contraire, précisément, quand on est mal orienté, ça rend les choses plus difficiles? Est-ce que une réorganisation de l'entrée à la fac, je vais le dire comme ça, a pu changer des choses pour certains étudiants ou pas, Philippe
Hendrix? Alors, il semblerait que les étudiants, effectivement, abandonnent moins facilement maintenant qu'auparavant. En tous les cas, c'est ce que les chiffres montrent d'accès à la deuxième année.
Je crois qu'il y a une question qui a été de travailler mieux sur l'accompagnement personnel. Là où ça peut être plus compliqué, c'est que des fois, entre guillemets, on force orientation dans des villes qui n'étaient pas notre ville de destination en premier choix et qui, du coup, des fois, forcent la mobilité. Et donc, comment on accompagne mieux la mobilité?
On n'a pas le temps de prendre Aurore parce qu'il nous reste une poignée de secondes, mais c'est pour vous, cette question, Orlane François. Je vais la prendre dans ma voix. Il n'y a pas de raison que vous vous défiliez. Pourquoi la FAGE, qui est censée être la première organisation étudiante, ne participe-t-elle pas aux manifestations devant les facs, etc., pour combattre la précarité étudiante après ce qui s'est passé à Lyon?
Alors, on a appelé au rassemblement la semaine dernière sur les questions des mobilisations qui se sont déroulées. Donc, nos fédérations sur les territoires étaient, lorsqu'elles étaient présentes sur les territoires, présentes sur ces rassemblements. On est encore ce soir en discussion avec d'autres syndicats étudiants pour organiser des mobilisations communes si ça n'avance pas.
Et ce thème, on va le garder, en fait, et on y reviendra vraiment à la précarité étudiante parce que c'est important. Merci beaucoup. Merci. De votre présence à tous. Merci de vos nombreuses questions, comme d'habitude.